Dernier avertissement concernant l'espace public. L'espace public est un espace neutre, c'est-à-dire que toute manifestation d'existence singulière y représente une atteinte à l'intégrité d'autrui. Tout sera désormais mis en œuvre, mobilier urbain, décors adéquats, contrôle continu, pour rendre impossible... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ?
Vacarme en réunion,
ce n'est pas une émission de radio, c'est un pli, un espace d'apparition, c'est un iceberg, un exercice de perception, un transformateur, un accélérateur, une pièce dans un mouvement.
Cette chanson est dédicacée à la fin du monde et à la troisième guerre mondiale. Youpi! C'est la fête! On va tous crever, y'a la fin du monde qui nous guette et nous on fait la fête. On va tous crever, la fin du monde nous attend et nous on fait la fête tout le temps, ouais. Aujourd'hui y'a que les très très vieux qui ont encore l'espoir de mourir de vieillesse. Les enfants s'ils viennent pas au monde bientôt, ils sauront jamais rien faire avec des Lego, oui.
Salut à tous, c'est Vacarme en Réunion et ça commence avec un peu de vacarme et pas mal de réunions aussi.
Salut à tous. Alors l'émission d'aujourd'hui est un petit peu bouleversée puisqu'on avait prévu de parler essentiellement de la COP21 et des convois qui vont partir, certains sont déjà partis, de Dijon et de Notre-Dame-des-Landes pour rejoindre Paris. Et puis bah évidemment avec les attentats qu'il y a eu à Paris le 13 novembre, on avait aussi envie de revenir un petit peu là-dessus et d'essayer d'en parler, même si c'est pas toujours très simple. Et entre autres, on avait envie surtout de parler des réponses gouvernementales à ce qui vient de se passer, quoi.
Oui, aborder le contexte actuel plutôt sous l'angle de effectivement ces aspects gouvernementaux plutôt que avoir des discussions de comptoir sur ce qu'est l'État islamique, l'horreur de ce qu'ils peuvent faire et se perdre en conjoncture psychologique affective sur l'état de notre époque. Et donc voilà, on préfère s'en tenir aux aspects gouvernementaux de la réponse. Donc, enfin, la réponse présente, qui est l'état d'urgence, à ces attaques de vendredi dernier à Paris.
Avec nous, il y a aussi Nora, qui est là, qui vient de Bure.
Salut.
Et qui participe au convoi, qui va partir pour la COP. Du coup, tout à l'heure, tu nous expliqueras un peu plus qu'est-ce que c'est que ce convoi, etc. Quoi.
Ouais.
Et du coup, dans un premier temps, on voulait revenir sur l'état d'urgence qui vient d'être déclaré par le gouvernement depuis le vendredi 13. C'est un peu difficile de parler de tout ça. On peut déjà présenter qu'est-ce que c'est que cet état d'urgence, quoi. C'est-à-dire quelles conséquences pratiques est-ce que ça engendre sur notre quotidien, quoi. Et entre autres, les droits que ça donne en plus, enfin les pouvoirs que ça donne en plus à la police, à l'État, quoi.
Ouais, en fait, c'est plutôt déjà des pouvoirs qui sont donnés à la police et au gouvernement plutôt que des droits, parce que justement,
oui, oui.
Ça, l'état d'urgence défini par un seuil dans lequel le droit s'efface pour devenir juste puissance de fait, quoi. C'est-à-dire, entre autres, par exemple, la possibilité pour la police de porter des armes en dehors des heures de service, c'est assez exemplaire de ça. C'est-à-dire, en fait, le port des armes à feu est plus véritablement encadré juridiquement. Et ça, c'est assez exemplaire de ce qu'est l'état d'urgence.
Ça a été beaucoup dit dans les journaux, mais on peut redire que l'état d'urgence, c'est un régime qui a été très peu utilisé sous la 5e. Et en tout cas, c'est la première fois, je crois, depuis la 5e République, que l'état d'urgence est proclamé sur tout le territoire métropolitain français. sa principale conséquence, c'est de mettre entre parenthèses tout le droit français et permettre de nouvelles choses essentiellement à la police, quoi. Et du coup, parmi celles-ci, il y a un nombre de possibilités que l'État a, qui est pas forcément de fait appliqué, mais qui peut s'en servir à différents moments, enfin à n'importe quel moment. Par exemple, il a le droit de faire fermer les bars ou d'interdire d'aller dans des bars, d'interdire les réunions quelles qu'elles soient, etc. Ça ne veut pas dire que dès à présent tout est interdit, mais c'est une possibilité qu'ils ont, ça y est, ils peuvent le faire, quoi.
Qui nous touche particulièrement, bon, on va en parler un peu plus tard dans l'émission, c'est évidemment l'interdiction de manifester qui a été prolongée jusqu'au 30 novembre. Et donc voilà, ça bouleverse considérablement, évidemment, ce qui était censé se passer la semaine prochaine par rapport à la COP, à ce sommet donc sur le climat. Mais il y a aussi un truc que tu viens de dire là, c'est tout le territoire métropolitain. Effectivement, c'est assez inédit, mais c'est pas que le territoire métropolitain là, c'est ou l'outre-mer aussi. C'est là que ça atteint un peu ses limites. Bon, alors pour le moment, ça a l'air d'être largement plébiscité, l'état d'urgence. Les gens ont l'air de plutôt soutenir la mise en place de ce dispositif qui fait que bon bah l'État montre un peu ses muscles. Mais effectivement, on peut se demander déjà pourquoi et ça a été donc mercredi dernier, ça a été étendu à tous les territoires d'outre-mer, et on se demande vraiment le sens d'une telle extension, parce que les territoires d'outre-mer sont pas visés par des attaques terroristes et risquent très peu de l'être dans les temps qui viennent. Donc en fait, ce qui est en jeu, c'est plus disons des facilités gouvernementales qui sont offertes par l'état d'urgence. Je pense que c'est véritablement ça. C'est pour ça que d'ailleurs, de la même manière, les manifestations sont interdites, mais pas les matchs de foot ou les concerts qui, eux, continuent d'être encouragés, continuent d'encourager leur tenue. En fait, pour peu que ça soit lucratif, on incite les gens à se rassembler, et dès que ça l'est pas, dès que ça risque de questionner l'organisation de nos sociétés, là il convient de les interdire. Alors ça peut être défendu dans le sens où bah ça fait perdre du temps à la police, sauf que bon bah c'est aussi ça qui fait que nos sociétés s'essoufflent pas très rapidement, et d'ailleurs c'est ça qui fait que nos sociétés sont en train de s'essouffler très rapidement, c'est que elles manquent cruellement de questionnement quoi. Donc par rapport à ça, moi je vais lire un texte de philosophie politique, philosophie du droit, qui a été écrit par Giorgio Agamben en 2007, et donc qui traite spécifiquement de l'état d'exception. Ça fait partie de tout un recueil, c'est l'immense œuvre d'Agamben, immense corpus d'œuvres qui s'appelle Homo Sacer. Homo Sacer, c'est une catégorie juridique du droit romain qui désigne une personne qui peut être tuée sans que ne soit commis d'homicide. C'est-à-dire personne qui est jugée persona non grata par la République romaine, et du coup, n'importe quel citoyen peut le tuer sans que le homicide soit commis. Et donc Agamben, il en fait un peu une espèce de figure centrale de sa pensée politique de notre époque, où il dit en gros par exemple ces migrants qui arrivent, bon, c'est un peu trop d'actualité ça pour qu'il en ait parlé en 2007, mais ça convient assez bien. C'est en gros ces migrants qui arrivent par bateau et dont la vie a très peu d'importance, qui peuvent mourir comme ça sans que personne ne s'en émeuve ou ne s'y intéresse. Voilà, ce seraient ces homo sacer, c'est-à-dire ces êtres qui sont déjà prêts à être sacrifiés, quoi. On pourrait aussi dire la même chose des détenus de Guantanamo, ou de la même manière, pour être un peu provocateur, des djihadistes qui étaient à Saint-Denis et qui ont donc été pris lors d'un assaut de la police cette semaine à Saint-Denis, et qui, à leur manière aussi, personne ne s'est ému que au cours d'une perquisition, il y ait trois personnes dans les personnes perquisitionnées qui soient tuées en pleine nuit comme ça, sans aucun procès ni aucun encadrement juridique à ça. Et donc voilà, c'est ça, ces homo sacer. Mais donc l'idée d'Agamben, c'est que aujourd'hui la totalité de l'humanité est devenue homo sacer. Donc je vais lire, je vais m'y mettre parce que sinon on commencera jamais. J'ai pris un appendice qui parle qui fait l'histoire de l'état d'exception en France, et ça permet voilà de replacer un peu l'état d'urgence actuel. Nous avons déjà vu comment l'état de siège trouve son origine en France durant la Révolution. Après son institution par le décret de l'Assemblée constituante du 8 juillet 1791, il acquiert sa physionomie propre d'état de siège fictif ou politique avec la loi du directoire du 27 août 1797 et enfin avec le décret napoléonien du 24 décembre 1811. En revanche, l'idée d'une suspension de la Constitution avait été introduite, comme nous l'avons vu également, par la Constitution du 22 Frimaire en 8. L'article 14 de la Charte 1814 attribuait au souverain le pouvoir de faire les règlements et les ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sécurité de l'État. À cause du vague de la formule, Chateaubriand observait qu'il est possible qu'un beau matin, toute la Charte soit confisquée au profit de l'article 14. L'état de siège fut expressément mentionné dans l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire du 22 avril 1815, qui en réservait la déclaration à une loi. Depuis lors, la législation sur l'état de siège rythme en France les moments de crise constitutionnelle tout au long du XIXe et XXe siècle. Après la chute de la monarchie de juillet, le 24 juin 1848, un décret de l'Assemblée constituante mettait Paris en état de siège et chargeait le général Cavaignac de rétablir l'ordre en ville. Dans la nouvelle constitution du 4 novembre 1848, fut ainsi introduit un article qui établissait qu'une loi fixerait les cas, les formes et les effets de l'état de siège. Dès lors, le principe qui domine, non sans exception comme nous le verrons, dans la tradition française, c'est que le pouvoir de suspendre la loi ne peut revenir qu'au pouvoir même qui la produit, c'est-à-dire au Parlement. La loi du 9 août 1849 établissait en conséquence que l'état de siège politique pouvait être déclaré par le Parlement ou à défaut par le chef de l'État en cas de danger menaçant la sécurité extérieure ou intérieure. Le futur Napoléon III eut recours à plusieurs reprises à cette loi, et une fois installé au pouvoir, dans la Constitution de janvier 1852, il confia au chef de l'État le pouvoir de proclamer l'état de siège. La guerre franco-prussienne et l'insurrection de la Commune coïncidèrent avec une généralisation sans précédent d'état d'exception, qui fut proclamée dans 40 départements et resta en vigueur dans certains d'entre eux jusqu'en 1876. Sur la base de ces expériences, et après le coup d'état manqué de MacMahon en mai 1877, la loi de 1849 fut modifiée pour établir que l'état de siège pouvait être déclaré par une simple loi, ou, si la Chambre des députés n'était pas réunie, par le chef de l'État, avec l'obligation de convoquer les chambres dans les deux jours, en cas donc de péril imminent dû à une guerre extérieure ou à une insurrection armée. Dans la plupart des pays belligérants, la Première Guerre mondiale coïncide avec la mise en place d'un état d'exception permanent. Le 2 août 1914, le président Poincaré émit un décret qui mettait le pays tout entier en état de siège et fut transformé en loi par le Parlement deux jours plus tard. L'état de siège resta en vigueur jusqu'au 12 octobre 1919. Bien que l'activité du Parlement, suspendue durant les six premiers mois de la guerre, ait repris en janvier 1915, nombre des lois votées étaient en réalité de pures et simples délégations législatives à l'exécutif, comme celle du 10 février 1918, qui accordait au gouvernement un pouvoir pratiquement absolu de régler par décret la production et le commerce des denrées alimentaires. Tingsten a observé que de cette manière, le pouvoir exécutif se transformait au sens propre en organe législatif. En tout cas, c'est dans cette période que la législation exceptionnelle par voie de décret gouvernemental, qui nous est aujourd'hui parfaitement familière, devint une pratique courante dans les démocraties européennes. Comme il était prévisible, l'élargissement des pouvoirs de l'exécutif au domaine législatif se poursuivit après la fin des hostilités, et il est significatif que l'urgence militaire céda alors la place à l'urgence économique, par une assimilation implicite entre guerre et économie. En janvier 1924, dans une période de crise grave qui menaçait la stabilité du franc, le gouvernement Poincaré demanda les pleins pouvoirs en matière financière. Après un vif débat, où l'opposition fit observer que cela équivalait pour le Parlement à renoncer à ses pouvoirs constitutionnels, la loi fut votée le 22 mars, limitant à 4 mois les pouvoirs spéciaux du gouvernement. En 1935, le gouvernement Laval fit voter des mesures analogues qui lui permirent de promulguer plus de 50 décrets ayant force de loi pour éviter la dévaluation du franc. L'opposition de gauche, guidée par Léon Blum, s'opposa avec force à cette pratique fasciste. Mais il est significatif qu'une fois au pouvoir avec le Front Populaire, la gauche demanda en juin 1937 au Parlement les pleins pouvoirs pour dévaluer le franc, établir le contrôle d'échange et lever de nouveaux impôts. Comme on l'a observé, cela signifiait que la nouvelle pratique de législation par voie de décret gouvernemental, inaugurée pendant la guerre, était désormais une pratique admise par toutes les forces politiques. Le 30 juin 1937, les pouvoirs qui avaient été refusés à Léon Blum furent accordés au gouvernement Chotan, où quelques ministères clés étaient confiés à des non-socialistes. Et le 10 avril 1938, Édouard Daladier demanda et obtint du Parlement des pouvoirs exceptionnels de législation par décret pour faire face à la menace de l'Allemagne nazie ainsi qu'à la crise économique. De sorte qu'on peut dire que jusqu'à la fin de la Troisième République, les procédures normales de la démocratie parlementaire furent mises en suspens. Il est important de ne pas oublier ce processus de transformation des constitutions démocratiques entre les deux guerres mondiales lorsqu'on étudie la naissance des prétendus régimes dictatoriaux en Italie et en Allemagne. Sous la pression du paradigme de l'état d'exception, c'est toute la vie politique constitutionnelle des sociétés occidentales qui commence progressivement à revêtir une nouvelle forme, qui peut-être aujourd'hui seulement a atteint son plein développement. En décembre 1939, après que la guerre eut éclaté, le gouvernement obtint la faculté de prendre par voie de décret toutes les mesures nécessaires pour assurer la défense de la nation. Le Parlement resta réuni, mais toute l'activité législative demeurait en permanence dans les mains de l'exécutif. Quand le maréchal Pétain prit le pouvoir, le Parlement français était désormais l'ombre de lui-même. De toute manière, l'acte constitutionnel du 11 juin 1940 conférait au chef de l'État la faculté de proclamer l'état de siège sur tout le territoire national. Bon, je vais m'arrêter là pour cette brève histoire de l'état d'exception en France. Juste, donc, ce qui est intéressant, c'est que dans la suite du texte, il poursuit avec une analyse de l'état d'exception en Allemagne. Et c'est ici que c'est intéressant, puisqu'il met en avant, enfin, une de ses hypothèses, c'est qu'on ne peut pas comprendre l'arrivée au pouvoir d'Hitler sans comprendre que l'Europe avait baigné dans le bain de l'état d'exception des années 1914 jusqu'aux années 30. L'état d'exception dans lequel se trouva l'Allemagne sous la présidence de Ebert et de Hindenburg fut justifié par Schmitt sur le plan constitutionnel par l'idée que le président agissait comme gardien de la Constitution. Mais la fin de la République de Weimar montre au contraire clairement qu'une démocratie protégée n'est pas une démocratie et que le paradigme de la dictature constitutionnelle fonctionne plutôt comme une phase de transition qui conduit fatalement à l'instauration d'un régime totalitaire. Donc voilà pour cette brève histoire des états d'exception en Europe et en particulier en France.
Pour continuer, moi j'avais envie de parler de ce qui s'est passé à Sens, parce que ouais, c'est un très bon exemple de la manière dont cet état d'urgence là, elle fournit des nouveaux outils aux différents dirigeants et que l'application de l'usage de ces outils a pas forcément à voir avec une quelconque menace terroriste ou quoi que ce soit, quoi. Peut-être toi tu peux plus nous raconter ce qui s'est passé.
Bah simplement, d'après les dernières nouvelles, alors à Sens, ils ont mis un quartier sous couvre-feu, donc qui est le quartier des Champs-Vaillants, je crois, qui a été mis sous couvre-feu en raison d'une perquisition dans le courant de la semaine dernière, dans la nuit de mardi à mercredi, je crois.
Donc couvre-feu, ça veut dire personne dans les rues
de 22h à 6h du matin.
D'accord.
Suite à des perquisitions, donc une personne a été placée en assignation à résidence, mais bon... C'est suite à la découverte d'armes, ce qui est assez banal dans un quartier populaire. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que le préfet et la députée maire de Sens reconnaissaient aujourd'hui que c'était pas lié aux attentats, que c'était clairement parce que bon, en gros, le quartier a le sang chaud et que bon, bah, les perquisitions étant pas forcément justifiées ou peut-être qu'on supposait qu'elles allaient éveiller la colère du voisinage, ça a conduit donc à la mise en place de ce couvre-feu, mais qui est complètement détaché des attentats ou de la prévention de futurs attentats, qui juste a un côté un peu expérimental en termes de maintien de l'ordre et de nouvelles possibilités offertes actuellement par l'état d'urgence en termes de maintien de l'ordre.
Mais du coup, ça fait vraiment une séquence quand même hallucinante, parce qu'il y a les attentats, il y a un état d'urgence qui est proclamé, justifié par les attentats qu'il y a eu. Deux jours après, il y a une multitude de perquisitions chez des gens, dont de l'aveu de la presse, en fait, les trois quarts n'étaient pas du tout liés aux attentats. C'est-à-dire que la police se sert de cet état d'urgence pour faire des perquisitions qu'ils auraient pas pu faire sinon, parce que le droit leur aurait pas permis, et là ils s'en servent, et parce qu'ils ont les outils juridiques, et parce que le contexte fait que personne va s'indigner de ces perquisitions. Du coup, ils font une série de perquisitions qui n'a rien à voir avec les attentats, et comme ces perquisitions à Sens n'ont rien à voir avec les attentats, ils craignent que par la suite il y ait des révoltes, et du coup ils mettent un couvre-feu, parce qu'ils ont le droit de le faire, mais qui est né lui-même, toujours pas justifié par une quelconque menace, quoi.
Mmh. Ouais, c'est ça. On attend la suite.
C'est un très bon exemple de jusqu'où ils peuvent aller en ce moment, quoi. De à quel point il faut vraiment être très très vigilant et pas perdre. Il faut vraiment avoir toute une lucidité aujourd'hui sur qu'est-ce que fait la police, etc. Et douter à chaque fois qu'on a une information. J'ai l'impression que par exemple dans le cas de Sens, dans tous les journaux, il est écrit il y a un couvre-feu, etc. Que c'est même presque pas justifié parce que il y a une espèce de sens commun qui va associer ça aux attentats. Et du coup, ils se permettent de même pas justifier pourquoi. Du coup, j'ai l'impression que c'est très important que tout le monde se pose les questions à chaque fois qu'il lit une nouvelle information, de creuser vraiment qu'est-ce que les médias nous racontent et qu'est-ce qu'il y a derrière.
Effectivement, par rapport à Sens, c'est dur de trouver
le pourquoi.
J'ai cherché, ça se justifie pas. Mais justement, parce que l'état d'urgence permet ça de ne plus apporter de justification à ce qui est fait d'un point de vue gouvernemental, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de justifier juridiquement la mise en place de telle ou telle mesure. Et donc c'est vrai qu'il faut être resté attentif et bien lire entre les lignes et essayer de comprendre pourquoi en fait là, cette mesure a été prise et pas voilà et de la même manière que l'interdiction des manifestations et l'autorisation des matchs de foot ou des mesures comme ça qui sont aberrantes si ce n'est comprises sous l'angle de coûts en termes de coûts pour la police, pour simplement la gestion du public et la gestion publique de coûts apportés par les manifestations qui sont au contraire des gains dans le cas des matchs de foot, quoi.
Et de la même manière que cette histoire de fiche S qui est quand même hallucinante, où pareil, dans les médias, etc., expliquent assez peu précisément qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire qu'on associe hyper vite la fiche S, le fait d'être fiché S pour sûreté de l'État, au fait d'avoir un lien avec le djihadisme. C'est l'espèce d'évidence qui court comme ça dans la presse, et du coup ça permet des déclarations de type on va assigner à résidence toutes les personnes qui sont fichées S, il y a des gens qui demandent leur enfermement dans des camps à droite. Et en fait, quand tu te penches vraiment sur qu'est-ce que c'est que cette fiche S, c'est tous les gens qui menacent la sûreté de l'État, c'est-à-dire qui s'attaquent politiquement à la sécurité, l'installation politique de l'État actuel, quoi. Et du coup, ça concerne en fait tous les gens qui politiquement s'élèvent contre l'ordre actuel, quoi.
Même pas que politiquement, hein. Par exemple, il y a les supporters de foot.
Ils sont fichés S aussi. Voilà, il y a les supporters de foot, j'imagine qu'il y a les Corses et les Basques qui se battent pour leur indépendance.
Ouais, bien sûr, les séparatistes, les 10 séparatistes des différentes luttes armées qu'il y a sur le territoire français pour la question d'autonomie régionale, quoi.
Et puis tous les gens qui se battent.
D'ailleurs essentiellement eux, je pense qu'ils sont fichés, hein, les Corses, Basques et Bretons. Et ensuite, il y a effectivement les hooligans, il y a toute une partie du mouvement altermondialiste, du mouvement des ZAD, du mouvement des luttes territoriales ou territorialisées. Mm-hmm. Et en fait, les fichiers S pour des questions d'islamisme radical sont très très marginales par rapport au numériquement dans ces 11 000, environ 11 000 fiches S qu'il y aurait, ça semble très marginal, quoi.
Mais ça dénote de l'extension de dire on est en guerre, donc l'État a un ennemi, et puis par extension, toutes les personnes qui sont ennemies de l'État
sont
ciblées. Voilà, exactement. C'est la sûreté de l'État qui est attaquée, et du coup, de fait, c'est plus l'État renchérit, non plus seulement contre le djihadisme, les menaces terroristes, je sais pas comment. Mais contre tout ennemi, toute personne qui essaye de le troubler, de questionner son ordre, quoi. Enfin, voilà.
Mais nous plierons pas à cet ordre. Et dès la semaine prochaine, nous allons désobéir à l'injonction de pas de manifester. On va en parler sous peu.
La civilisation, comme on la nomme, ne fut une barbarie savante et je résolus de devenir un sauvage. Anatole France. En matière de changement climatique, comme de menaces terroristes, il semble que les gouvernements aient fait de la peur la mécanique intime de leur monde. En ces heures embrouillées, où la plus grande confusion règne quant aux partis pris et aux perspectives politiques qu'il est désirable de suivre, où la terreur est appliquée à tous les domaines de l'existence, de l'environnement à la fête, du chômage de masse à la circulation des personnes. Un état de panique qui fait planer l'anéantissement de tout ce qui vit, sans autre voie de salut que de s'en remettre entièrement à ceux qui nous gouvernent. Il est grand temps d'affirmer que nous n'avons pas besoin d'être sécurisés et que nous ne sommes pas terrorisés. Le message schizophrénique qu'on ne cesse de nous rabâcher semble dire « Vous risquez de mourir à tout instant, restez calme, on va trouver une solution ». Des quartiers mis sous couvre-feu sans lien avec les attentats du 13 novembre, les manifestations interdites, la fermeture des frontières face aux flots de réfugiés qui viennent questionner le sens des nations à bout de souffle, une économie malade au chevet de laquelle ne cesse de se bousculer des médecins bornés et sûrs d'eux, l'imminence annoncée des catastrophes climatiques, environnementales et humaines. Gestion martiale du cours des choses, dont les remèdes finissent par être la seule maladie. État d'urgence et nouvelle taxe carbone. Le malade, c'est nous. Contrôlons-nous. Sinon, c'est la mort assurée. Dès demain, sous les balles terroristes, ou d'ici une cinquantaine d'années, celle de toute la planète. Au fond, pour les gouvernements, un attentat ou une courbe de température ne sont rien de plus que des prétextes pour nous gouverner et stimuler l'économie. Interdire les manifestations et encourager le shopping. Créer une police de l'environnement et industrialiser toute la forêt. Il nous appartient de refuser l'interminable organisation du désastre. Comme il nous appartient d'anéantir la quête de gloire et le désir de mort de certains de nos semblables. L'une et l'autre de ces architectures de notre temps sont au fond parfaitement homogènes. La vie étant désormais le lieu même de la politique, il n'y a pas à s'étonner qu'elle soit la cible en tant que telle des États contemporains, quand bien même il s'agit d'États autoproclamés. Mais si la vie est directement politique, alors plus que jamais continuer à vivre intensément veut aussi dire vivre politiquement. On voudrait nous faire croire aujourd'hui qu'il y a la guerre, celle du libéralisme occidental contre le terrorisme islamiste. Une guerre dans laquelle la plupart d'entre nous auront bien du mal à choisir un camp. Une guerre d'État. De l'aveu du gouvernement français lui-même, qui identifie l'ennemi par une fiche S pour sûreté de l'État, et si ce sont nos corps qui sont touchés aujourd'hui, c'est parce que l'État et son armée se sont rendus intouchables, blindés dans des sommets surprotégés, envoyant des drones anéantir une cible et tout son quartier. En réalité, nous sommes tous en guerre contre ce qui nous détruit. Il n'y a pas la guerre, il y a une multitude de guerres, et comme il y a une multitude de positions. Nous sommes l'armée de personnes. Nous menons nos propres guerres pour construire la vie, les vies qui nous semblent désirables. Durant la COP21, le gouvernement a annoncé que pour des raisons de sécurité, seules les négociations entre dirigeants se tiendront, toutes les autres manifestations seront annulées. Nous refusons de remettre notre sécurité et notre avenir dans leurs mains. Nous ferons route vers Paris à la veille d'un sommet qui réunira des gouvernants du monde entier pour discuter d'aménagement économique et calculs environnementaux. Nous ne les laisserons pas être hégémoniques et décider de nos vies et de la texture de nos territoires comme on joue au Monopoly. Nous traverserons en convoi des lieux où des personnes luttent concrètement contre le désastre environnemental en cessant d'attendre qu'une décision extérieure vienne sauver leur territoire. Nous sommes en guerre contre la morbidité de notre époque et le nihilisme de notre génération. Nous sommes en guerre contre l'islamisme et la civilisation occidentale, dont l'opposition factice ne tient qu'au délai de leur perspective eschatologique.
Bonjour
et bienvenue dans ce documentaire.
La COP21, c'est génial.
Tous ensemble, on va régler tous les problèmes.
On va sauver la planète Terre.
Et ça va être extraordinaire.
En une semaine, on va tout changer.
Enfin, nous, on n'est pas invités, mais...
Mais je fais vraiment confiance aux industriels.
Et aux gouvernants.
Et aux industriels.
Pour avancer ensemble, main dans la main.
Une nouvelle ère s'ouvre devant nous.
Ils vont tous venir dans des très gros avions.
Nos dirigeants vont prendre des décisions déterminantes.
Mais pas trop.
Déterminantes quand même.
Bah oui, pas trop.
Faut être réaliste.
Il faut pas trop bouleverser l'économie, bien sûr.
On
on doit continuer à consommer toujours plus, c'est normal.
Bah ouais, faut pas déconner.
On va se redire des trucs qu'on se
depuis
dit...
Depuis 15 ans.
Et qu'on va appliquer dans 30 ans.
Ça va être génial.
Si tous les acteurs économiques et tous les États sont d'accord.
Bien évidemment.
Oui, il faut avant tout que tout le monde soit content.
Ça va être réellement incroyable.
Ils vont absolument tout changer.
Et vous y croyez, vous?
Tous ensemble, on va faire n'importe quoi.
Voilà, c'était Datagueul qui se fout de la gueule d'un spot publicitaire pour la COP21, un spot du gouvernement, quoi. Et voilà, on le remettra sur le blog à notre adresse tvnr.noblogs.org.
C'est vrai qu'à voir, c'est encore plus marrant parce que il y a les, c'est vraiment fait comme un clip publicitaire avec les personnes qui sont filmées en plein cœur de la métropole et qui parlent très sérieusement de ce qu'ils ont à dire, sauf que c'est avec des voix modifiées, celles qu'on entend là, où voilà, ça se moque assez intelligemment de ce que peut être la COP21, ouais.
Alors nous, on est avec Nora.
Salut. Salut.
Et Nora, tu viens de Bure.
Ouais, c'est ça.
Et tu viens pour nous parler un peu des convois.
Ouais.
Peut-être tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe à Bure.
Ouais. Bah oui, on est arrivé de Bure. Voilà, un petit convoi a rejoint Dijon. Et juste pour rappeler, Bure, c'est le site qui a été choisi pour réaliser les sites d'enfouissement des déchets radioactifs. Donc, c'est le projet CIGEO. Et il nous semblait vraiment important d'être là pour parce que voilà, on va expliquer un peu qu'est-ce que c'est les convois, mais aussi parce que en fait pendant la COP21 le nucléaire sera proposé au monde comme la bonne solution énergétique. Et le fait que on pense quand même à mettre des déchets sous terre pour des millions d'années montre que peut-être c'est pas vraiment la bonne solution, quoi.
Et ça va être mis en avant comme une solution écologique, peu polluante, etc.
Exactement, quoi. Ouais. Et donc il nous semblait quand même important de venir pour dire que il y a des lieux où c'est pas ça, quoi.
Dire qu'il y a des gens qui sont pas d'accord, quoi.
Ouais.
Aussi
ouais.
Des gens aux endroits où les projets se font, quoi.
Ouais. Et c'était ça un peu l'idée des convois, en fait. C'était d'opposer à ces discours très, très techniques sur un marché de CO2. Par contre, proposer juste des discours des gens qui luttent dans des endroits et qui quotidiennement se questionnent sur dans la manière dont ils mangent, la manière dont ils consomment de l'énergie, la manière dont ils se réchauffent. Et l'idée des convois, c'était de proposer plutôt ça face à des discours qui sont des discours qui nous parlent pas. C'est un langage qu'en fait on sait pas répondre avec ces langages-là, opposés à un autre langage qui est un autre langage, un langage de lien à lutte où on veut mettre en discussion des questions, des modes de vie et tout ça. Et c'est pour ça que voilà, Bure est là et on passera dans d'autres endroits, on parlera de la forêt, on parlera
Tu connais un peu les endroits qui sont traversés par les convois?
Oui, peut-être, je ne sais pas tous, mais oui, je pense que demain on va partir vers les Morvans.
Aujourd'hui, il y a déjà des gens qui sont partis?
Oui, en vélo, ouais. Donc demain, on va partir pour les Morvans. Il y aura les vélos qui sont déjà partis, les véhicules qui partiront demain. Et c'est là-bas qu'on fera un tour dans la forêt. Donc on parlera de la manière dont on peut se réapproprier de la forêt, des différents usages de la forêt qui sont faits aujourd'hui. Que c'est une question effectivement qui n'est pas très, très, très abordée.
Alors que pourtant, il y a des offensives depuis quelques années.
Ouais. Et à Bure aussi.
Ouais,
à Bure aussi.
C'est une des grandes dimensions pour faire du greenwashing, c'est de faire, de produire de l'énergie à partir de bois de scierie, enfin de bois tout court, et du coup ça fait qu'ils touchent des subventions pour le faire qui.
Ouais.
C'est le greenwashing, voilà. et donc du coup dans le Morvan, et puis ensuite
vous allez à Tonnerre. Tonnerre, c'est un projet d'usine biomasse, du coup c'est ce qu'on venait de raconter. Il y a un gros projet d'une usine qui serait supposée être bio, parce qu'elle va brûler du bois. Et voilà. Et du coup, ça va reposer aussi la question des forêts, mais aussi de tout le circuit de production énergétique, comme un peu ce qu'on vient de dire. Et ensuite, ça monte vers Paris.
Ça monte vers Paris, et on va voir si on va arriver à Paris ou pas.
Parce que le principe, c'était Saclay, non?
Ouais. Le plateau de Saclay. Normalement, la rencontre des différentes marches, c'est à Saclay, ouais.
D'accord.
Le convoi, il me semble, est censé aller même après Saclay
à Paris.
À Paris, dans Paris, faire un immense banquet pour affirmer cette irréductibilité de nos manières de vivre à la vision gouvernementale, c'est-à-dire que non, irrémédiablement, on restera des gens qui aiment être ensemble et des gens qui aiment faire la fête. Et voilà, on a envie de l'affirmer. On avait envie de l'affirmer en arrivant à Paris, justement pour leur opposer ça. Et donc voilà, on verra si effectivement ça se fait.
Eh ben, en tout cas, nous, on a rencontré la semaine dernière une chorale qui travaille à ce qu'on voit. Et du coup, cette chorale qu'on a rencontrée, elle prépare une chanson, une reprise de La vie parisienne d'Offenbach, ou un opéra à quatre voix. Et du coup, c'est des gens qui savent pas du tout chanter pour le moment. Et
non,
qui
c'est
s'entraînent.
Magnifique, c'est magnifique.
Ah bah là, l'enregistrement est très beau, mais je crois qu'il y avait des professionnels qui s'étaient glissés dans la foule. Et sinon, c'est essentiellement des gens qui savent pas chanter, qui préparent cette chanson.
Et donc, si vous voulez voir cet opéra, il faut venir au convoi, c'est ça?
C'est ça. On écoute.
De tous les pays du monde, nous venons. Arrivons par la terre ou bien par Londres, nous venons. Arrivons de tous les pays du monde, nous venons. Arrivons par la terre ou bien par Londres, italien, brésilien, japonais.
On est en fait en ligne avec les copains qui sont partis aujourd'hui en vélo depuis Notre-Dame-des-Landes. Allô?
Oui.
Oui, donc en fait, on s'est demandé un peu si vous pouvez nous raconter comment ça se passe.
Et ça se passe bien, il fait beau, l'ambiance est très bonne sur le convoi. Ce matin, il y a eu une tentative de blocage par la police, un petit peu après en semi. Et ils souhaitaient contrôler l'identité de tous les participants au convoi et leur spécifier à chacun et chacune que l'arrivée à Saclay n'était pas possible et que entrer en Île-de-France n'était pas possible non plus. Alors tous ont refusé d'un bloc les contrôles. Et puis il a fallu attendre que la police en réfère au ministre de l'Intérieur qui semble-t-il, les a laissés passer. Donc, dans une heure et demie, ils arriveront à Angers pour faire une déambulation dans la ville et ensuite on fera une conférence dans la salle d'Avier, 5 rue d'Avier, à Angers.
Et qu'est-ce que ça veut dire que l'arrivée en Île-de-France est interdite? C'est que du coup, ils menacent de vous bloquer avant l'arrivée en Île-de-France ou...
C'est ça, bah, d'après leur dire, ils vont faire un cordon de sécurité. Ils vont faire un cordon de sécurité apparemment tout autour de Saclay et nous empêcher l'accès à cette étape-là. Et annonce, mais ça c'était une annonce d'un policier au mégaphone juste avant le redémarrage du convoi. C'est ça, qu'ils bloqueraient à Saclay, qu'il y aurait un cordon, et puis que l'accès en Île-de-France était interdit. Alors on n'a pas plus d'informations que ça pour le moment. Nous, ce qu'on sait déjà, c'est qu'on va à Angers, et puis tous ensemble, on en reparle, et on je pense qu'on est quand même bien déterminés à se rendre au plus loin possible.
Il y a intérêt, parce qu'on est censé tous se voir là-bas, alors...
Oui, ça serait sympa. Et puis après ça, on perçoit un peu comme encore cette volonté d'éviter toute contestation pendant la COP. Quoi. C'est des moyens qui sont utilisés vraiment, qui nous bloquent, alors qu'on est dans une démarche totalement cool, totalement sereine, et qu'on a quand même des choses à dire. On veut quand même mettre en lumière cette hypocrisie que de faire une COP21 et de vouloir enrayer le réchauffement climatique pour... deux mois après, redémarrer les travaux d'un aéroport en pleine zone humide, enfin, ça n'a pas de sens, c'est aussi ce qu'on veut mettre en lumière, quoi.
D'accord, ouais, bah super, merci d'avoir...
Bah moi, j'espère juste qu'on se réveillera tous à Saclay.
Ouais, c'est sûr que ça serait bien. En tout cas, merci beaucoup, au revoir, ciao. Voilà, donc c'est assez dans le ton de ce qu'on dit depuis le début de l'émission, entre écologie et état d'urgence policier, on se retrouve à peu près à avoir ce genre de perspective là qui se dégage, donc qui interdirait l'arrivée des convois en Île-de-France apparemment.
Je pense que c'est très important que tout le monde se tienne au courant de cette histoire de convois, et de l'ouest et de l'est, parce que du coup si effectivement les convois sont bloqués à l'entrée d'Île-de-France, peut-être que ce serait bien qu'il y ait beaucoup de gens qui les rejoignent. En tout cas, il y avait un appel de Notre-Dame-des-Landes à venir rejoindre leur convoi, ne serait-ce que pour quelques heures, pour permettre le passage, parce que je crois qu'il y a, enfin, le but là, c'est plutôt de passer de façon un peu tranquille avec le plus de gens possible, avec les tracteurs, etc. Du coup, je pense que dans une situation comme ça, ça va être le nombre qui va déterminer est-ce que c'est possible ou pas. Donc le nombre, la pression générale, si le plus de gens se tiennent au courant et suivent cette histoire, il y a quand même des chances que tout ça termine par un vaste banquet à Paris.
Tout à fait, ça serait super. Et on y croit.
Sinon, pour finir l'émission, on peut redonner quelques informations si vous voulez rejoindre ces convois. Donc, essentiellement, celui qui part de Dijon demain matin. Le rendez-vous, c'est sur les Lentillères demain matin à 9h.
Ouais.
Voilà, pour partir en voiture direction le Morvan. Il y a des gens qui sont partis à midi en vélo et qui dorment ce soir dans la Vallée d'Ouche, je sais pas très bien où ça. Et demain, qui seront à Montbard, c'est possible de les rejoindre. Il y a un numéro de téléphone que vous pouvez appeler pour rejoindre ce convoi. C'est le 06 23 94 92 33. On va le remettre sur le blog. Et puis, vous pouvez, je crois, rejoindre cette carte caravane à n'importe quel moment, ne serait-ce aussi que pour une soirée, pour venir parler un petit peu. Je crois que le but, c'est vraiment de soulever la question de l'écologie et des territoires par nous-mêmes et de pas attendre que ce soit les dirigeants qui règlent ces questions-là pour nous.
Et ouais. Et donc effectivement, toute cette semaine va être parsemée de moments de discussion le soir, donc où il y aura voilà des rencontres, des échanges sur nos lieux de vie, nos territoires de vie, nos manières d'y vivre, et où idéalement, théoriquement, on peut imaginer que de là naisse une certaine forme d'intelligence collective dont on se fera fort d'essayer de vous rapatrier jusqu'à vos oreilles, en tout cas à travers l'intermède d'un poste radio. Et
je crois que tous les matins, dans la matinale, il va y avoir des retours sur ce convoi.
Non, ce sera sur la web radio la semaine prochaine.
Ah, ok.
voilà, tous les jours, donc sur la web radio de Radio Campus, donc Dijon, Paris, Marseille, les gens auront accès à le travail de montage qu'on aura bien eu le temps de faire au fur et à mesure de la semaine. Et donc tous les jours, ils seront un peu au courant de des discussions qui ont eu lieu, en tout cas des parties éventuellement intéressantes ou polémiques de ces discussions. Mm-hmm. Et ça sera suivi la semaine d'après d'une chronique journalière, le midi, qui fera des retours sur cette semaine de convoi.
Et vous pourrez écouter tout ça aussi dans Vacarme en Réunion dimanche prochain, où on recompilera tous ces moments-là pour une heure d'émission le dimanche à
16h. Voilà, tout à fait.
Voilà, salut Nora.
Salut.
Bonne chance pour cette traversée du Morvan.
Et à très bientôt.
Vous retrouvez tout ce dont on a parlé sur le blog tvnr.noblogs.org. À la semaine prochaine. Salut.
À la semaine prochaine. Et on se quitte avec Gojira. Ça envoie du gros lourd. Attention.